France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets passent la semaine dans le département du Nord. Et aujourd'hui, nous sommes à Roncq, puis à Villeneuve-d'Ascq, pour parler d'abord d'une résidence pour jeunes adultes autistes, et ensuite pour parler de deux très vieux moulins qui viennent d'être classés aux monuments historiques. Je passe un coup de fil au meunier. Il est convaincu qu'un moulin se règle et se manœuvre comme un bateau à voile. Le voyage immobile s'annonce magnifique. On prend la mer à Villeneuve-d'Ascq. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Une résidence pour vivre en autonomie, pour quitter le domicile parental, mais en étant accompagné dans les tâches du quotidien. C'est ce qui est proposé à Roncq, dans le Nord, à deux jeunes adultes autistes. Et nous en parlons en ce 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Fabienne de Oliveira, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la fondatrice de l'association ISRA qui a lancé cette résidence d'habitat inclusif baptisée Habited il y a 10 ans maintenant. Le projet se développe aujourd'hui dans d'autres communes, on va en parler. Vous êtes vous-même mère d'une jeune fille autiste. Comment est né ce projet au tout départ?
Alors au tout départ, il est né, d'un vide. Comme solution pour ma fille, en fait, le diagnostic de Louise, donc ma fille s'appelle Louise, elle a 36 ans aujourd'hui, elle n'avait pas de diagnostic, son diagnostic est arrivé à l'âge de 22 ans, elle n'avait pas de solution et j'avais dû arrêter mon travail pour m'en occuper et le projet est né de son histoire, enfin de notre histoire, en me disant, ben finalement, s'il n'y a pas de solution, ben je vais essayer de la créer moi-même et j'ai été rejointe par d'autres parents qui étaient dans la même situation que moi.
Le profil de Louise et d'autres jeunes adultes, c'est un peu un entre-deux, si je puis dire, des personnes autistes qui ne sont pas assez autonomes pour vivre seules, mais trop autonomes pour avoir besoin d'un encadrement permanent.
C'est ça, c'est-à-dire que Louise était trop autonome pour intégrer une structure et pas assez pour vivre seule. Et on l'a toujours emmenée avec nous partout, en famille, en vacances. Voilà, elle avait toujours évolué avec des personnes neurotypiques tout le temps. Et donc, voilà, on voulait qu'elle reste dans cette démarche-là d'inclusion.
Quelles sont les particularités des appartements de cette résidence Habited alors?
Alors, ce sont des appartements complètement autonomes. Hein. Ils ont un coin cuisine, ils ont leur salle de bain, ils ont leur espace qui leur est propre. Hein. Donc ça, c'est important pour des personnes autistes qui ont une grande fatigabilité. Hein. Donc le fait de se retrouver dans leur appartement, c'est aussi un lieu d'apaisement. Et en même temps, il y a un espace collectif qui permet de recréer du lien social hein, parce que c'est leur difficulté également, hein, puisqu'ils ne recherchent pas les interactions sociales. Et en fait, l'idée, c'est aussi de les préserver de l'isolement.
Je parlais d'un accompagnement dans les tâches du quotidien. Quelle forme prend-il cet accompagnement ?
On est sur des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, c'est des personnes qui vont intervenir au besoin en fonction du profil, soit pour les aider à faire leur repas, soit pour les aider au moment de la toilette. Enfin, voilà, on est vraiment sur un accompagnement individuel de chacun. Et cet accompagnement individuel est pris en charge dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Et les appartements sont adaptés, on l'imagine. Hein. Comment ça se manifeste concrètement ?
Alors oui, on utilise beaucoup des visuels pour la majeure partie d'entre eux, hein, donc soit des pictos quand même, hein, même quand ils sont 30-35 ans, on utilise des pictos pour leur rappeler qu'ils doivent faire leur toilette ou faire leur lit en fait. Hein, donc et pour d'autres, c'est simple, enfin ils doivent barrer. En fait, il y a le système de séquentiel. Donc en fait, la particularité, c'est qu'on adapte l'accompagnement et la communication en fonction de ce qu'ils comprennent.
Quand vous dites qu'ils doivent barrer, c'est une succession de tâches et une fois que c'est fait, on barre.
C'est ça. Soit en picto visuel, soit en phrase, en fait, pour ceux qui sont lecteurs. Il y en a qui sont lecteurs.
Et qu'est-ce que ça change, Fabienne ? Est-ce que ces jeunes adultes gagnent en autonomie ? Est-ce que les proches le constatent ?
Ah ben, ça change tout. Ils gagnent effectivement en autonomie. Enfin, moi, il y a 10 ans, je ne partais pas en vacances, je partais pas en week-end, je m'occupais de Louise avec beaucoup d'inquiétude. Et comme d'autres parents aujourd'hui, on a une autre vie, on a une nouvelle vie. En fait, on est soulagé de certains aspects de leur prise en charge et en même temps, du coup, on est beaucoup plus présent parce que on est vraiment présent comme parent et plus comme aidant. Et ça change la relation, effectivement. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et pour eux et pour nous, parce que eux parfois veulent même pas rentrer chez eux le week-end, hein. ils sont bien chez eux dans leur appartement, ça va très très bien.
J'imagine que les autres parents vous disent aussi on s'inquiétait pour ce que deviendrait notre fils, notre fille après.
Oui, ben en fait c'est un peu ce qui nous porte tous, parents d'un enfant en situation de handicap, hein, quel qu'il soit, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on sera plus là et comment ils vont continuer à progresser, soit s'il n'y a pas de place en structure, soit si on considère que l'institution ou la structure ne leur convient pas. Et c'est vrai que voilà, ça change la vie complètement, hein, vraiment.
Alors c'était inédit, hein, à l'époque où vous avez créé ce dispositif Habited. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui en France ?
Alors il y a quelques dispositifs qui ont vu le jour après, hein, donc il y en a un du côté de Strasbourg, voilà, c'est des associations qui m'avaient contacté à l'époque, voilà, on avait échangé un petit peu sur ce qui avait été fait en Ronc, donc sur Strasbourg, sur La Rochelle aussi, il y en a un qui est en train de se mettre en place, sur Aix-en-Provence aussi, je pense.
Et votre association, je le disais, est en train de grandir avec d'autres projets dans d'autres communes du département du Nord.
Oui, c'est ça. On a un projet sur Neuville-en-Ferrin et sur Tourcoing qui est en train de se construire, hein, parce que c'est de la construction neuve avec un bailleur social. Et on vient de livrer 9 appartements à la Madeleine.
Tout près de Lille.
Tout près de Lille, donc un secteur beaucoup plus urbain que celui de Ronc.
Il y a beaucoup de demandes, hein, j'imagine.
Oui, beaucoup de demandes et beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de diversité de profils aussi, c'est important de le dire.
Et les anciens, ceux qui ont quitté l'appartement Habited, que sont-ils devenus ?
Alors, ils sont dans leur propre appartement aujourd'hui, hein, sur les 10 premiers qui ont intégré donc en décembre 2015, donc il y en avait 10, il y en a 7 qui ont leur propre logement maintenant, qui ont une vie comme tout à chacun, qu'on accompagne aussi en service à domicile, hein, en fonction de leurs besoins, hein, comme quand ils étaient sur Habited, et qui ont gardé des liens avec les locataires actuels, qui partent en vacances avec eux, enfin ils ont une vie comme tout le monde en fait, c'est merveilleux.
Ça vous rend fière, j'imagine, Fabienne.
Ah oui. Oui, ça me touche. Ça me touche quand je les vois partir, quand je les vois grandir. Et voilà.
Et aujourd'hui, combien d'appartements sont occupés ? Ils le sont tous, hein ?
Oui, ils le sont tous. Donc aujourd'hui, il y en a 19 et il y en aura 39 à l'horizon 2026.
Merci beaucoup Fabienne de Oliveira. Habited, c'est donc à Ronc et bientôt à La Madeleine, Tourcoing, Neuville-en-Ferrin, porté par l'association ISRA, qui signifie, je le précise, innover, sensibiliser, réagir pour l'avenir des personnes autistes. Merci Fabienne.
Avec plaisir.
Et bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Et nous voici à Villeneuve-d'Ascq pour parler de deux moulins qui sont des morceaux de patrimoine. Ils viennent d'ailleurs d'être classés au titre des monuments historiques. Des moulins en bois qui datent du XVIIIe siècle. L'un des deux tourne encore, l'autre devrait bientôt s'y remettre. Et on en parle avec le meunier Pardy. Bonjour Vincent de Meyer.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. C'est vous qui avez la lourde responsabilité de prendre soin de ces deux moulins à vent, un moulin à huile et un moulin à farine. Alors, ils se visitent, hein, puisqu'ils sont situés au sein du musée des moulins de Villeneuve-d'Ascq, mais ce n'est pas là qu'ils ont été construits. Et je découvre, Vincent, qu'un moulin peut se déplacer.
Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que pour notre moulin à huile, c'est déjà... sa troisième place qu'il retrouve ici. Donc au départ, il était parti pour travailler à Audruic en 1743. Et donc, il a travaillé une cinquantaine d'années. Et puis, ce moulin a subi une transformation. Donc, il est devenu moulin à farine. Et ensuite, il a été encore déplacé. Il est parti à Hoffekerk. Et maintenant, il s'est retrouvé à Villeneuve-d'Ascq en 1980. Donc voilà, c'est déjà son troisième emplacement. Idem pour l'autre moulin.
Pourtant, c'est des bestioles assez impressionnantes. Hein. Ça se déplace.
Oui, en fait, c'est impressionnant, mais c'est aussi très fragile. Et il faut savoir que le moulin repose simplement sur un tronc d'arbre. On appelle ça un moulin sur pivot. Et donc, c'est simplement posé et ça tient d'aplomb. Et donc, le moulin ne pose pas au sol, car l'escalier ne pose pas au sol non plus. Il y a toujours un espace de plus ou moins 20 cm, car le moulin doit être orientable face au vent. Et donc, ça, c'est nécessaire de pouvoir l'orienter en fonction du vent pour le travail. Et donc, ça peut faire un tour complet, tout ça en équilibre sur ce fameux pivot.
Je précise, ça n'est pas rien que le moulin à huile a les ailes les plus grandes de France. C'est une fierté pour vous, cette inscription récente aux monuments historiques ?
Ah oui, et en plus, c'est quand même impressionnant quand on se retrouve là à l'intérieur, de voir cette mécanique qui est encore capable de tourner. Et donc, pour moi, c'est une fierté aussi de pouvoir travailler avec un moulin comme ça de nos jours.
La couleur des ailes, je crois, est typique de la région.
Ben, c'est-à-dire que bien souvent, on retrouve des ailes de couleur rouge. En fait, ce ne sont pas les ailes qui sont rouges, ce sont les voiles. Et donc, suivant la force du vent, on va déployer de la voile, un peu comme un bateau. Et donc, ces voiles, autrefois, étaient entretenues d'un produit rougeâtre. Et donc, on continue à fabriquer des voiles de cette couleur rouge. Mais bon, ça peut arriver que quand vous passez devant le moulin tourne simplement sans voile parce que le vent est suffisant. Mmh. Maintenant, quand le vent est faible, on va mettre ces quatre voiles rouges.
Vous voyez des points communs entre votre métier de meunier et celui de navigateur ?
Oui, en fait, on doit aussi être attentif tout le temps et surveiller le ciel, le vent. On doit dompter le vent, ce qui n'est pas toujours évident comme énergie parce que c'est une énergie assez variable et donc parfois ça peut s'emporter et provoquer de la casse aussi. Donc il faut vraiment être vigilant et anticiper parfois certaines manœuvres.
On peut les visiter, hein, ces deux moulins de Villeneuve-d'Ascq. Il ne faut pas trop avoir le vertige hein, pour découvrir les entrailles. C'est impressionnant à l'intérieur.
Oui, c'est surtout qu'une fois qu'on se retrouve dans le moulin, c'est quand même un endroit assez élevé puisqu'on se retrouve déjà à 6,50 m de hauteur par rapport au sol. Et donc, l'escalier est assez raide. Et quand le moulin tourne, on sent aussi un petit peu les mouvements de la cage, un peu comme sur un bateau. Hein. Donc, le moulin voyage un peu de gauche à droite en fonction des efforts du vent. Quoi.
Et en sortant, on a le mal de terre, comme après un séjour en mer ?
Ah, c'est vrai que quand on est dans le moulin, on a toujours du mal à le quitter aussi.
Alors, je le disais, l'un des deux tourne encore, mais pas l'autre. C'est prévu pour bientôt. Des travaux de rénovation sont en cours ?
Ouais, c'est plutôt des travaux de maintenance. Ce sera l'occasion de pouvoir remettre à nouveau en route les ailes du moulin à farine dans un premier temps, car après on espère remettre la mécanique en route pour refaire de la farine.
Et l'autre moulin fait de l'huile ?
Non, pour des raisons de sécurité, on n'en fabrique plus. Il en a fait au tout début après son inauguration. Monsieur Brugman a quand même fait un peu d'huile, mais il faut savoir que les pilons, ce sont d'énormes pièces de bois qui donne beaucoup de choc dans la charpente et en plus c'est très proche du public. Dans la phase de transformation de la graine en huile, il faut aussi chauffer. Donc on allume un feu dans le moulin en bois. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça.
C'est dangereux.
Donc, c'est très dangereux. Et donc pour préserver la machine, eh bien on fait tourner le moulin simplement à vide. Mais tout est visitable de l'intérieur. Hein. On se rend compte de comment ça va, comment ça fonctionne. Tout est encore intact.
Je précise, vous parliez de Monsieur Brugman à l'instant, c'est le créateur hein, de ce musée des moulins de Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que vous sauriez dire, Vincent, ce qui vous lie précisément aux moulins ? Pourquoi est-ce que vous les aimez tant ?
Ben, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais quand on travaille avec une machine comme ça, enfin moi je ne sais pas, j'ai eu le virus déjà il y a pas mal d'années, et donc quand j'ai suivi ma formation, j'ai tout de suite accroché. C'est le fait aussi de pouvoir travailler avec ce mécanisme tout en bois, avec la force de la nature, et puis on ne fait plus qu'un avec le moulin. Quand le moulin tourne, on ressent tous les mouvements, et on écoute, on ressent les vibrations, et donc on est toujours très attentif lorsque ça tourne.
Puis c'est un certain charme de travailler avec une machine qui a plus de 2 siècles.
Ah oui, c'est ça qui est étonnant de voir encore ce genre de machine qui tourne actuellement. Quand il y a un bruit anormal dans le moulin, ben on sait qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou quelque chose à régler. C'est une machine vivante.
Le musée des moulins, c'est à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Merci mille fois, Vincent Demeyer.
Oui, à bientôt.
Et bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir.